Bien le bonsoir, chers auditeurs. Et oui, j'ai été au regret de vous imposer une nouvelle longue absence, mais que voulez-vous, hein? En ces temps estivaux, je me suis vu vraiment obligé de rentabiliser mon merveilleux achat que j'ai fait il y a de ça 2 ans, hein, en l'occurrence ma superbe villa au bord de ma merveilleuse piscine. Et oui, bon, voilà, bon, bah, du coup, enfin, actuellement, voilà, je suis juste repassé ici au Luxembourg pour régler quelques papiers. Et bon, j'en ai profité pour loger dans ma maison locale, hein, et puis voilà que, bon, vous l'avez sûrement remarqué, hein, vu que ma fenêtre est ouverte, vous avez dû l'entendre, hein, oui, j'ai été surpris par un orage, mais terrifiant, hein, donc, d'une intensité, mais pas banale, hein. Et oui, c'est un peu l'apanage, hein, de ces chaudes après-midi de fin d'été, tout ça, hein. Et bref, bon, voilà que je suis plus ou moins enfermé, du coup, et je m'ennuie un petit peu, alors. Ah oui, tiens, j'y pense, tiens, puisque je parle de ça, j'ai une bonne nouvelle à vous faire partager. Figurez-vous que j'ai arrêté la clope et le martini. si, j'en ai profité, voilà, j'ai profité de cet isolement, de ce temps libre pour méditer un peu et me recentrer sur les vraies priorités de la vie, tout ça. Et donc, oui, voilà, ben, écoutez, à la place de ça, j'ai découvert deux nouveaux amours, l'absinthe et les cigarillos à la vanille. Oui, on ne vit qu'une fois, que voulez-vous, hein. Mais enfin, bref, voilà, bon, écoutez, que diriez-vous de... Attendez. Voilà. Voilà, je viens de mettre le feu à mon verre d'absinthe, avec le bout incandescent de mon cigario, voilà. Je pose le verre par terre sur le tapis, voilà, et je vous propose de venir avec moi ici, de vous asseoir donc sur mon tapis, en cercle autour de cette merveilleuse flamme verte et de profiter de cette ambiance orageuse et mystérieuse pour écouter une merveilleuse histoire sombre à souhait. Notre histoire se déroule toujours dans notre merveilleux royaume qui est lointain sans l'être, avec un sol propice à la poussée des carottes. L'époque différera quelque peu pour une fois, car les événements que je vais vous conter se sont passés il y a un peu moins de 2 siècles. C'est parti! L'aventure tournera autour de Cédric, un jeune instituteur fraîchement sorti de l'académie de formation des enseignants. À une époque où être instituteur était occupé une fonction prestigieuse, oui, époque nous semblant bien mystérieuse en ces temps de décadence importée de l'étranger, où le savoir est perçu comme une maladie. Parce qu'il faut bien le dire, hein, entre les navets américains, la suffisance des noirs et l'invasion des barbares musulmans, il y a de quoi perdre un petit peu son latin, n'est-ce pas? Mais soit. Revenons à Cédric, donc, notre jeune fonctionnaire en devenir, mais qui vivait cependant chez sa mamie, vieille femme aveugle, qui aurait développé un sens extrasensoriel pour compenser son handicap. Et c'est justement en compagnie de l'aïeul et lors du petit déjeuner que commença l'aventure tragique de notre cher enseignant en herbe.
Bonjour, mamie.
Oh, Cédric, enfin debout.
Oui, c'est vrai, la soirée des remises de diplôme a été un peu longue, je suis rentré tard hier soir.
C'est rien. Assis-toi, j'ai posé le journal du matin sur la table si tu veux.
Mamie, c'est le paillasson de l'entrée là que t'as mis sur la table.
Ah, j'ai pas vu. Forcément. Donc ton journal doit toujours être devant la porte.
Je vais le chercher.
Brave petit.
Une fois revenu, Cédric parcourut la page des annonces afin d'y trouver une offre d'emploi intéressante.
Alors, voyons ça.
Ah, il me faut du sucre.
Non, pas un mi-temps. C'est pas intéressant.
Aïe! Je suis cogné contre un tiroir ouvert.
Ah non, cette école est beaucoup trop loin. Ça me coûterait beaucoup trop cher en train tous les jours.
Je me suis envoyé la porte de l'armoire dans la figure en l'ouvrant.
Non, ça c'est une annonce du télégramme rose.
Ah, voilà le sucre. Aïe, oh, la refermant maintenant.
Tiens, voyons dans le petit cadre là.
Bon, mais où est ma poêle à crêpes déjà? T'as ton boire. Oh, je l'ai retrouvé.
Eureka!
Cri de joie amplement justifié, car notre jeune ami venait de trouver une perle, le travail idéal de ses rêves bleus les plus fous. Oui, afin d'être sûr de l'obtenir, il s'habilla en toute hâte et fonça vers la mairie sans même prendre le temps de déjeuner.
Ainsi donc, monsieur, vous désireriez obtenir le poste d'enseignant au collège primaire de Hügelgrauen, collège privé certes isolé parce que situé dans des collines boisées, mais offrant une bonne rétribution, remboursant les déplacements et permettant également d'être logé sur place, en chambre, tout frais payé, c'est bien ça ?
Oui, je sais tout ça.
Mais pas les auditeurs, vous n'avez ni lu l'annonce à haute voix sous le coup de la surprise, ni même à votre mamie tout à l'heure dont vous auriez dès lors reçu les encouragements sur une musique entraînante. Du coup, il faut bien que quelqu'un se charge d'en parler, vous voyez ?
Ah oui, désolé.
Bien, reprenons. Vous êtes certes, monsieur, le premier à vous présenter pour l'emploi, mais vous me semblez avoir toutes les qualités requises. Bon, vous n'êtes pas très expérimenté, mais...
J'ai quand même fait 1 mois de stage à l'école du village.
Mais allez, vous avez une bonne tête. Je transmets sur le champ votre candidature à l'école.
Et c'est ainsi que Cédric sut, le soir même, et par télégramme, qu'il avait obtenu le poste. La dite missive lui sommait de prendre le train pour Hugelgrauen dès le lendemain après-midi afin d'y prendre son service 2 jours ensuite. C'est donc en ce fameux lendemain, sur les quais de la gare de son petit village, que nous retrouvons notre désormais jeune instituteur de profession en compagnie de sa chère grand-maman.
Ah, c'est mon train, mamie.
Oh, mon petit-fils.
Allons, mamie, allons. Je reviendrai chaque fin de semaine pour te voir. Et puis, merci d'avoir pris soin de moi tout au long de ces années, tu sais.
Soit, mon petit, soit. Mais je tiens à te faire part de quelque chose. J'ai comme un affreux pressentiment. Une intuition profonde. Je sais que tu vas penser que j'essaye de te retenir. Mais pourtant, il me semble... C'est comme si le nom de ce collège m'évoquait un souvenir lointain. Quelque chose de si ancien que ma mémoire n'en retrouve nulle trace tangible. Néanmoins, j'ai le sentiment que ce souvenir disparu se rapporte à quelque chose d'effroyable, de sombre, de... Bah, il est parti.
Le voyage commençait pour notre ami Cédric. Ah, il était emballé, notamment parce qu'il n'avait presque jamais quitté sa contrée. Bien qu'en forme et plein d'enthousiasme, demeurant seul et inactif dans un compartiment du train, il finit par s'assoupir, ayant peu à peu sombré dans la somnolence, à force de n'avoir autre activité que de regarder le paysage défiler. Car oui, voir des arbres fuser de droite à gauche et à toute vitesse avait quelque chose d'hypnotique. Et il s'endormit alors que le train venait à croiser une haute montagne visible dans le lointain.
Mais qui êtes-vous ?
S'exclama Cédric, lorsque sortant soudain de sa torpeur, il vit un homme visiblement mûr et de bonne présentation, assis juste en face de lui. Il était étonné de le trouver là, alors qu'il demeurait seul dans le compartiment juste avant de s'assoupir.
Allons, mon jeune ami, n'ayez crainte, hein, je me suis permis d'entrer à l'instant, voyant que ce compartiment était le dernier avec encore des places libres. Soyez sûr que je suis désolé de vous avoir réveillé, et si vous le souhaitez, je suis disposé à vous laisser seul.
Non, pensez-vous, vous m'avez juste un peu surpris, et voilà tout.
Je me nomme Harold Valkenkubris, je suis notaire, je reviens de l'enterrement de feu un client avant d'honorer le testament au village de Poodle. À présent, je rentre chez moi et je descends au prochain arrêt. Et vous, monsieur ?
Je me nomme Cédric Carpentier, je suis instituteur, voyez-vous. Là, je me rends à mon lieu de travail, non loin de la gare de Terminus.
Ah tiens, lequel est-ce ?
La gare d'Hugelgrauen.
À la simple énonciation de ce nom, le vieux notaire écarquilla les yeux, exprimant un mélange d'effroi et de colère. Il se leva d'un bond fulminant et quitta le compartiment. Étonné, réellement surpris, Cédric ne trouva rien à dire et ne put qu'être spectateur de la scène. Un peu dépassé, il redirigea lentement son regard vers la fenêtre. Un paysage tout semblable à celui qu'il avait quitté défilait encore au dehors, si ce n'est que le ciel s'était un peu assombri. Très vite, il se rendormit. Un son de cloche se fit entendre, sortant doucement Cédric de ses songes, juste à temps pour qu'il puisse entendre susurrer.
Terminus, tout le monde descend.
Ah, c'est mon arrêt.
En un bond, le jeune enseignant avait rassemblé ses bagages et vestons, puis quitté le train. Au dehors, il découvrit le quai désert d'une minuscule gare, une bicoque faite en briques sur fond d'une forêt dense dont la robe émeraude se trouvait masquée par la nuit sans lune. Un peu hébété, il se tourna vers le contrôleur, celui-ci l'observant depuis l'entrée du wagon.
Excusez-moi. Ah oui, merci. Par où dois-je aller pour me rendre au collège ?
Mais notre ami ne reçut nulle réponse. Alors que le train redémarrait, le vieil homme en képi se contentait de le fixer, l'air ébahi, à la fois effaré et sceptique. Le train accéléra et disparut rapidement, en contrebas, empruntant l'aiguillage qui lui fit faire demi-tour, laissant Cédric seul au milieu de l'obscurité. Le jeune homme trouva inquiétant qu'aucune lampe à gaz n'ait été installée pour éclairer l'endroit. Depuis que le train était parti, on n'y voyait plus à 2 mètres. Notre ami, angoissé mais encore convaincu que la situation était solutionnable, décida d'entrer dans la gare afin de demander de l'aide.
Il fait noir ici.
S'il avait été inquiet jusque-là, c'est maintenant l'incompréhension la plus totale qui le prit aux tripes. L'intérieur était non seulement aussi sombre qu'au dehors, mais le peu qu'il put en voir avait de quoi laisser quiconque soupçonneux. Le sol était jonché de morceaux de meubles brisés et de vieilles étoffes. Partout trônait la poussière et se pavanaient de vastes ouvrages arachnéens, comme une insulte à la modernité. Cédric fit quelques pas, manquant de trébucher sur les restes d'un vieux landau, et s'approcha du guichet. D'une main peu sûre, il fit pivoter le fauteuil du guichetier qui lui tournait le dos. Mais sur le siège ne demeurait qu'un tas de matière visiblement desséchée et fort peu identifiable. Toutefois, si on forçait l'œil, on pouvait presque distinguer... Un choc violent projeta le jeune garçon contre un mur. Affalé, étourdi, il releva la tête, apeuré, cherchant d'où pouvait venir le coup, mais il ne distinguait rien. Il repensa à sa pauvre grand-mère, elle qui était aveugle. Dès lors, il tendit l'oreille, cherchant dans l'air ce que ses yeux ne pouvaient percevoir. Il entendit une respiration lourde. Un son d'impact, comme celui d'un énorme pied corrigeant le sol de son immobilité. Puis un autre, plus proche, et encore un autre. Jadis, non pas un demi-siècle plus tôt, mais non loin d'autant cependant, arrivée de nulle part, certains dirent de l'Est lointain, d'autres des étoiles, vint une créature. La bête, l'ont-ils appelée. Celle-ci erra quelque temps dans la région, allant de village en village, insaisissable, invulnérable, ressurgissant à chaque nuit sans lune et se repaissant de quelques paysans des environs avant de redisparaître. La menace avait été prise au sérieux, mais ce n'est qu'après une sombre nuit que les paysans du pays se mobilisèrent enfin. Le monstre s'était introduit de nuit dans la petite école des collines et avait dévoré tous les jeunes pensionnaires. Révulsés, révoltés, les habitants traquèrent la bête pendant 3 jours jusqu'à l'acculer dans cette petite gare où elle s'était réfugiée. Ne pouvant la tuer car rien n'y faisait, ils conclurent un accord avec elle. Celle-ci demeurerait en cet endroit, ne le quittant jamais plus, en échange de quoi ils lui enverraient, à chaque nuit sans lastre, une proie humaine choisie par eux et menée à elle par quelques dupris. L'accord tenait toujours. La bête savourait son repas, mais il faudrait le faire durer pour ne pas manquer jusqu'à la prochaine nuit sans lune. Des fois, être au chômage, c'est bien. Et voilà, encore une de fête. C'était quand même très sympathique de faire ça sous l'ambiance de l'orage, là, à l'extérieur, qui orage qui continue, d'ailleurs. Ah, il est long, hein, comme quoi on a bien fait de prendre un petit peu de temps pour s'amuser. D'ailleurs, oh, regardez, ça, c'est amusant, il y a la flamme de l'absinthe qui vient de s'éteindre, il faut croire que tout l'alcool est consumé. Oh, bah, je vais peut-être le boire, tant que je suis là, attendez. Ah! Ah non, mais on dira ce qu'on veut, mais sans alcool, c'est quand même pas pareil, oui, puisque tout l'alcool a brûlé. Mais écoutez, je crois que je vais quand même me laisser tenter, et je vais peut-être ajouter une petite léchette de martini pour rehausser le goût. Ah oui, que voulez-vous, on ne vit qu'une fois, et puis on ne se refait pas.